Il y a une relation particulière avec Cuba. Et là, je parle pas du régime comme tel, les Felquistes et tout ça, là, c'est une autre chose. On aime le Sud. On est des gens latins, on aime la chaleur et on aime le pas cher. Donc, résultat, faites la liste des destinations. La Martinique est pas là-dedans, la Guadeloupe est pas là-dedans. Cancun, ouais, dans le 3 étoiles, peut-être. Punta Cana, on m'a dit que Punta Cana, ça a beaucoup augmenté because les gens changent de destination. Cuba, c'est la destination préférée des Québécois. Tu avais sorti une stats la semaine passée, Dan, il était ahurissant.
42% de tout le tourisme sur l'île de Fidel, c'est des Québécois.
Canadiens anglais vont très rarement, là. Les gens qui partent de YYZ à Montréal vont en Jamaïque, vont Bahamas, dans les Caraïbes. Les gens qui ont plus de bacon. Ici, on se fait voler par le gouvernement, donc on prend l'argent qui nous reste, puis finalement, on s'en va dans le Sud à 769$, dans un 3 étoiles et demi, 4 étoiles, Varadero, peu importe, Caillou Coco et compagnie. Dans ces villages en plastique-là, je suis plaide coupable, les amis, je suis allé, je ne sais pas combien de fois, d'après moi, 6 fois, seul, pour des trips de brosse et avec ma blonde. J'ai fait Holguin, Caillou Guillermo, Caillou Coco, Varadero 3 fois. À peu près ça. Quand t'es dans un village en plastique, tout est propre, c'est clean, ils ramassent les algues. Puis tu sais, je suis allé une période quand même plus avantagée. Là, ils remplissent ton drink. Ton drink commence à être un peu vidé et rempli, igloo. Tu ne vois pas la réalité des Cubains. Mais il y a une fille qu'on adore ici dans Montréal Live, une journaliste de terrain qui a du guts, qui est allée faire un tour dans le vrai Cuba. Le Cuba que vous n'avez jamais vu, possiblement, si vous n'êtes jamais sorti de votre village en plastique. J'ai cru comprendre, pour être déjà allé à La Havane, qu'elle est allée à La Havane. Mais je vous le dis, là, pendant une heure de temps, vous allez voir des vidanges. Si mon ordi avait été en Dolorama, ça aurait senti vidange partout dans la maison. Alexa Lavoie, comment ça va? The Rebel News.
Bonjour.
Des vidanges, y en a-tu?
Ah, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Puis, tu sais, moi, j'ai voyagé beaucoup, là.
Ouais, oui.
J'ai vraiment voyagé beaucoup. Je suis allée en Inde, je suis allée en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique. Puis, je pense que c'est la première fois que je voyais autant de vidanges. Écoute, tout est en train de tomber. Il y a des immeubles, là, que je de dire un coup de vent, là, puis c'est fini, là, ça tombe, là. Tu sais, il faudrait pas qu'il y ait un ouragan qui passe parce qu'il resterait plus grand-chose des édifices là-bas, là.
Ça, c'est la photographie de ce qui m'a étonné le plus. Ce qui m'a étonné le plus également, et là, tu couvres les visages et tu couvres la voix, c'est que les Cubains n'hésitent plus à dire « fuck le communisme, on n'en veut plus, on veut plus rien savoir du communisme ». Et il y en a beaucoup qui disent même Marco Rubio, s'il vous plaît, merci. Ce qui risque peut-être d'arriver, regardons la chaîne des événements, là. Ça ne reviendra plus comme c'était avant. Je ne sais pas jusqu'à quel point le gouvernement va vouloir s'en aller, là. Mais les Cubains n'ont pas l'air à vouloir prendre la rue. Forte intimidation de l'armée et de la police. Hein. On le dit dans ton reportage, hein. La police, la prison, aussitôt que tu lèves le ton, c'est la prison, hein, Alexa?
Les gens avaient extrêmement peur, puis à chaque fois qu'ils nous parlaient très bas, c'est pour ça qu'on a eu vraiment de la misère à capter l'audio parfaitement, là, mais au moins on a été capable de le sous-titrer. C'est que les gens ils sont tout le temps en train de regarder en arrière d'eux parce que le régime en tant que tel ont des gens, ils prennent des citoyens, et là, eux sont forcés d'espionner, ouais, et de rapporter au régime s'il y a des gens qui parlent contre le régime ou ils font des manifestations ou des crimes. Donc, ils ont vraiment une escouade de citoyens qui sont là seulement pour espionner les autres.
Comme en Europe de l'Est. C'était ça aussi en Europe de l'Est. Commence par la base. T'es parti avec qui? T'as un latino avec toi. Pourtant, ton espagnol est très bon. Tu parles espagnol.
C'est mon collègue.
T'es très bon. Raconte. Avec qui t'étais et raconte le modus operandi de la patente. Comment t'as fait ce reportage-là sur le terrain? On t'écoute.
Oui, c'est avec mon collègue Efrain Mocento. En fait, c'est mon collègue de Toronto. C'est juste que lui, il est dominicain d'origine, mais il est canadien, là. On est parti à Cuba parce que justement, là, on voyait que On n'avait pas vraiment d'informations. En fait, il n'y a pas de reportage qui sort de Cuba qui va aller à l'encontre du régime. Bon, on le sait, les médias sont contrôlés. Il y a des peines très sévères pour...
D'où la présence de reportages LHQ à Radio-Canada.
Ben, c'est ça qui se passe. Parce que de toute façon, tu ne serais pas admis sur l'île si tu ferais un reportage qui va à l'encontre du régime. Nous, on avait des gros risques. On est arrivé là-bas avec des téléphones complètement nettoyés. On n'avait pas accès au monde extérieur. On a aussi, on était préparés là. On savait qu'on risquait soit la prison, de se faire détenir et d'avoir nos équipements être saisis. Donc, quand on est allé là-bas, on a vraiment joué une game où ce qu'on était dans une lune de miel. On n'a jamais abordé le sujet ni dans la chambre d'hôtel parce que les chambres d'hôtel peuvent avoir des micros où ce qu'ils nous écoutent. On pouvait pas non plus mettre tout ce qu'on avait comme vidéo. On pouvait pas les uploader.
Fait une mise en scène. T'es passé vite là-dessus, là.
Ouais.
Une mise en scène où vous étiez de faux amoureux.
Oui, effectivement. Si on se faisait questionner, on savait notre ligne, on savait quoi dire.
C'était quoi la ligne?
C'était justement qu'on est en lune de miel, on vient de se marier, on est là pour profiter de Cuba, d'avoir du soleil. S'ils nous questionnaient, si on était journaliste, admettons, ils nous googlaient, on était pour dire justement que ça n'avait pas rapport avec notre emploi, qu'on était vraiment ici parce qu'on venait de se marier, etc. Donc, mais on a été chanceux parce que quand on est arrivé à l'aéroport, écoute, ça a pris 1h30, 2 heures avant de passer aux douanes. C'était n'importe quoi, là. C'était tellement long. Ils nous ont pas questionnés. On était vraiment chanceux là-dessus. Puis on restait seulement 4 jours. Hein. On n'était pas là pour une semaine.
À la Havane.
Oui, dans un hôtel à la Havane. C'était pas un tout inclus. On avait le déjeuner seulement inclus. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte que quand on allait dans les restaurants des Cubains, il manquait de tout. Il y avait plein de plats qui n'étaient pas disponibles parce que justement, il n'y avait pas accès à telle chose. Et là, on voyait vraiment la réalité. Tu sais, les gens, là, là-bas, là, ils ont quasiment rien. Il y a des line-up pour attendre à la bakery, là, pour aller acheter du pain. Parce que ils ont tant de pain qu'ils sont capables de faire par jour. Et donc, si t'es pas dans la première personne qui attend en ligne, ben, ça se peut que t'aies pas de pain.
Hey, quand tu montes des œufs, c'est le salaire complet d'un mois, hein? Raconte cet épisode-là, là.
Ben, c'est ça qu'on m'expliquait, c'est qu'il y a deux types de personnes sur l'île. T'as les employés de l'État et les personnes qui travaillent à l'hôtel. Les travailleurs d'hôtel gagnent plus que des médecins, gagnent plus que les enseignants. Et eux peuvent aller s'acheter la nourriture qu'il y a dans certains marchés, mais les Cubains ordinaires n'ont pas, ils peuvent pas, ils sont pas capables de s'acheter quoi que ce soit dans ces marchés-là. Et les gens de l'hôtel, souvent, c'est des gens qui sont pro-régime. Parce qu'ils sont choisis, ils se connaissent, c'est des connexions. Et ils dorment dans l'hôtel, ils sont nourris par l'hôtel. Et en plus de ça, ils ont les cadeaux des visiteurs et de l'argent des visiteurs. Donc, ces gens-là ont extrêmement beaucoup d'argent. Et aussi, c'est des gens qui vont supporter ce que le régime est en train de faire. Et faut que les gens comprennent que quand on s'en va là-bas, l'argent qui se transite dans les hôtels ne va pas aux Cubains. Et le régime ne donne pas ça aux Cubains, là. On s'entend, le capitalisme, c'est pour le régime en place, mais pour les Cubains, c'est le communisme. Ils n'ont pas accès à cet argent-là, même qu'il y a un hôtel qui vient de se construire sur l'île. Et c'est le régime qui a construit l'argent, qui a construit l'hôtel sur l'île à partir de l'argent des profits. Il n'y a rien qui s'en va aux gens. Donc, c'est d'aller dans des hôtels pour soutenir le régime, pour donner de l'argent au régime, pour continuer cette dictature-là, alors que les gens dans la rue souffrent. Je vous le dis, là, c'est pas des gens qui sont gros, là. Ils sont maigres, ils ont des petits calepins, là, tu sais, les petites bouclettes, là. Ouais. Puis là, là-dedans, là, ils ont toutes leurs rations qu'ils ont le droit d'avoir. Tu rentres dans les pharmacies, tout est vide, il y a absolument rien de disponible. Ils vont à l'hôpital, admettons qu'ils sont malades, ils ne peuvent même pas aller chercher le médicament qu'ils ont comme prescription, soit qu'ils n'ont pas l'argent pour payer ou soit qu'il n'est pas disponible parce qu'il n'y en a pas de médicaments. Donc, les Cubains sont très, très... ils regardent beaucoup. Ils ne consomment pas de sel parce qu'ils disent que c'est mauvais pour leur santé et ils ne peuvent pas se permettre d'être malades. Donc, mais c'est, je vous le dis, là, ils font vraiment attention. Quand moi, je suis rentrée dans une des pièces, ils m'ont ouvert leur chez-soi. suis rentrée, puis j'avais une famille de 5 assis dans une petite pièce. Puis là, j'étais là, mais vous dormez où? Ils dorment tous dans le même lit, dans un petit lit qui n'est pas un king, là. C'est même pas un queen, là. C'est un lit double. Puis là, tu rentres dans leur cuisinière, là, leur cuisine, puis ils sont en train de faire une soupe à partir d'os, d'eau et d'épices. Ils n'ont rien. Il n'y a absolument rien là-bas. Et c'est ça qui arrive, c'est qu'ils ne peuvent pas parler contre le régime parce que sinon, c'est 5 à 10 ans de prison allant jusqu'à 20, 30 ans. Parce que quand il y a eu la COVID-19, les gens s'étaient levés et tous ceux qui avaient manifesté ont été envoyés en prison. Il y a plus de prisons sur l'île que d'écoles, d'universités. Donc, c'est sûr que les gens ont peur. Ils ne se lèveront pas. Mais passe en ce moment, et là, les gens, faut qu'ils comprennent, dès leur plus jeune âge, ils sont endoctrinés à l'école pour croire que le communisme est bon, la révolution les ont sauvés contre l'impérialisme américain, et que toute leur vie, on leur dit, c'est la meilleure chose. À la TV, tous les médias disent que Fidel, c'est le sauveur, que tous les médias sont contrôlés, sauf qu'il y a eu l'apparition des réseaux sociaux. Et là, les réseaux sociaux leur ont donné accès sur le reste du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les médias, l'Internet est contrôlé. Écoute, ils sont même capables de savoir c'est quoi que les gens font comme activité au niveau de l'Internet à partir de leur technologie. Ils sont capables de savoir cette personne-là a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions sur Internet. On va aller vérifier. Ils sont capables de demander ton téléphone puis regarder qu'est-ce que tu regardais puis qu'est-ce que tu avais accès comme réseaux sociaux. Puis là, tu peux être envoyé en prison. C'est pour ça que nous, on n'a rien uploadé de notre chambre d'hôtel parce qu'il y aurait vu l'activité qui se faisait au niveau de l'Internet. Et donc, on a décidé de cacher nos cartes SD dans nos vêtements, dans notre valise et de toujours nettoyer nos appareils. Comme ça, s'ils nous prenaient et être questionnés et ils regardaient nos appareils, ils auraient vu qu'on n'avait pas grand-chose.
As-tu eu peur à un moment donné?
Je vais dire, la première journée qu'on est arrivé, on est retourné à notre chambre et là, on rouvre la porte qui fait noir dans notre chambre, puis il y a une personne qui sort de notre chambre. Puis là, j'ai fait, ben voyons, c'est qui ça? Puis la personne, ça était avec des desserts. Puis là, j'ai dit, ouais, mais on n'a pas commandé de dessert. Puis là, elle dit, oh, mais elle dit, c'est correct, c'est correct. Puis là, elle s'en va, puis elle nous laisse pas le dessert. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle faisait dans notre chambre?
Peut-être installer un micro.
Mais moi, j'ai comme l'impression qu'il y a eu des vérifications qui s'est faites pendant qu'on n'était pas là, de savoir qui qu'on était, qu'est-ce qu'on avait, mettons, dans notre chambre au niveau de, je sais pas, des papiers ou quoi que ce soit. Parce que c'est anormal qu'une personne rentre avec des desserts dans les mains, ressort, mais elle ne nous laisse rien.
Comment ça va finir?
Ben moi, ce que je pense que c'est en train de faire, c'est que là, en ce moment, ils ont coupé vraiment l'approvisionnement de.
Là, les compagnies aériennes, ils vont plus. Il n'y a plus de kérosène. On ne reviendra plus comme en 78. Là.
Ouais.
Fidel, dans le fond, c'est fini. Donc, on s'en va vers quelque chose. On s'en va vers quoi?
Moi, je pense qu'on s'en va vers. On est en train de faire des pressions pour faire en sorte que le régime se tasse. Parce que là, en ce moment, on dit tout le temps, c'est Díaz-Canel qui est le président. C'est pas Díaz-Canel, hein? Là, oui, par visage,
Est-ce que c'est la famille Castro qui est encore
en
arrière?
C'est Castro, c'est Raoul Castro qui donne toutes les ordres.
Il est toujours vivant, là.
C'est ça. Il est toujours vivant. C'est Raoul qui dit quoi faire à Díaz-Canel. Tout le monde est en accord avec ça sur l'île. Raoul est encore très présent. Il est quand même 90, 93 ans. Mais tant et aussi longtemps que Raoul est dans les parages, c'est lui qui va mener. Et que c'est, dans le fond, Díaz-Canel est juste là en apparence pour l'instant. Mais c'est lui qui a été choisi pour continuer le régime en place.
Les Cubains te disent, il y en a beaucoup qui disent, Marco Rubio, on aimerait ça qu'il nous gouverne ne serait-ce qu'un temps. Et tout ça, on entend ça, hein? C'est une fierté
c'est lui
pour eux autres. Hein?
Pour eux, c'est une fierté parce que non seulement ses parents, c'est des Cubains. Marco Rubio est né sur l'île. Ils connaissent un peu c'est quoi vivre sous cette dictature-là. Ils disent, écoute, il y a des bonnes idées, il comprend notre réalité, il sait très bien c'est quoi qu'on vit sur l'île. Donc, puis ils savent très bien, ils disent, là, cet homme-là est intelligent, cet homme-là nous veut, il veut du bien pour nous, on veut qu'il soit notre président. Il y en a plusieurs qui ont évoqué ça. C'est sûr que encore là, plus tu te rapproches des hôtels...
Les gens ils prendront pas la rue, par exemple. Tu le sens dans ton reportage. Les gens ont trop peur. Ça va venir, le retrait du gouvernement va venir par peut-être une négociation avec Washington. Ça m'étonnerait que Washington débarque avec l'armée. Puis ça m'étonnerait également qu'ils prennent la rue, de par ce que tu viens de décrire. Donc, la seule issue, c'est une négociation en douce. Mais les gens veulent quoi?
Ils veulent un changement de régime.
Ah,
maintenant, ils veulent
ils
quelque
plus.
Chose. Puis même si on envoie de l'aide au niveau de la nourriture, etc., cette nourriture-là ne va pas aller encore aux gens. Ils vont aller, le régime va le prendre, va l'envoyer à ses hôtels.
Non, c'est clair. Il faut se laisser, mais ce reportage exceptionnel, allez voir ça. Je pense que c'est ton plus long reportage ever. Ça se peut-tu?
Oui, 45 minutes, mais 45 minutes de que vous allez voir la réalité de Cuba pour une fois. Là, parce qu'il y a absolument personne qui a fait ce qu'on a fait.
Allez voir ça. Allez voir ça. C'est rough. C'est la réalité. Alexa, je te laisse là-dessus. Mais c'est gratuit. C'est accessible. Moi, je l'ai vu sur YouTube.
Oui.
C'est Rebel News, ton compte. C'est vraiment, vraiment un incontournable. Merci encore et bravo, bravo, mille bravo.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
Merci. Bye.
Bye.
C'est. Moi, la vraie vie, là, c'est que Cuba, j'ai beaucoup de difficultés. Tu sais, c'est un peu comme la religion. Je dois me parler pour ne pas avoir. Tu sais, pour pas avoir d'idées préconçues sur le monde qui vont. Faut que je me parle. Là. Faut que je me dise, c'est du monde qui veulent voyager, qui n'ont pas les moyens.
Ouais,
parce que c'est ça, au Québec, on se fait voler notre argent, la moitié de notre paye par le gouvernement.
Oui.
Fait que quand vient le temps de partir en vacances, les gens n'ont pas les moyens.
Ben, ils vont à l'agence de voyage. Qu'est-ce que c'est pas cher? Mon
c'est
budget,
ça.
C'est 800
piastres. Voilà. Donc,
on
a 800
chèques.
Ils se retrouvent à Cuba, je comprends
tout ça. C'est Varadero, Cayo Coco.
Sauf que ce qu'Alexa vient de me confirmer, ce que je savais déjà, là, c'est qu'il y en a de la bouffe à Cuba, mais
oui.
Pas pour les Cubains. Il y en a des médicaments à Cuba, mais pas pour les Cubains.
Pour eux autres, pour la clique en haut.
Pour la clique en haut, puis pour les touristes. 100% des ressources à Cuba est utilisé pour les touristes. Ça veut dire qu'il ne reste plus rien pour la population.
Dan, ils ont fermé des hôtels.
Je sais.
Tu sais, quand tu dis, et oui, ils gardent ça pour les touristes. Ouais, mais même les touristes, il n'y a plus rien. Ils ont fermé des hôtels la semaine passée.
Oui, c'est...
c'est la fin. C'est une période de transition. C'est douloureux. Mais à un moment donné, ce régime-là devra mourir. Ça suffit. Ça suffit. Et on va assister à une transition, à une reconstruction.
Ouais.
Mais les scènes de joie qu'on va voir quand les Américains vont rentrer, là, je te le dis, là, ça va nous faire pleurer. Pleurer de joie. Pour vrai. Là.
Ben,
peuple extraordinaire.
Quand on voit des images souvenirs du Cuba avant Che puis Fidel, ça avait l'air d'être une grosse, grosse fête, Cuba. Là. Tout le monde avait l'air heureux. C'est une île qui marchait à tempête, qui avait de l'argent.
Et l'autre réflexion que j'ai avant d'aller à la pause et d'aller à Ray, qui s'est déplacé pour sa chronique aujourd'hui, c'est les journalistes d'ici, les médias. Est-ce que je peux blâmer personnellement les journalistes quand ton boss te dit fastidieux à ça? J'ai déjà joué dans la game, là. T'sais, je me suis fait dire d'aller cogner à la porte d'Éric Lapointe. T'sais, je dis, il y a des boss en haut, bon, parfait. Mais parlons des boss, des patrons de presse. Pas de couilles. Elle est allée, mise en scène, somme toute, légère. Avec son téléphone pour faire ce qu'elle a fait là. Ça, c'est du vrai journaliste. Du terrain. C'est du terrain. C'est pas compliqué. Le journaliste va refléter la réalité et vous la présente. C'est à vous de juger. Donc, bravo encore une fois.